France Culture.
When he had his first asthma attack, we'd gone to Haiti for the first time.
La porte est ouverte.
D'accord, tout simplement. Prenez l'escalier, quatrième étage, jusqu'à Pierre Francis.
France Culture.
Est-ce qu'on doit se promener pour aller voir des livres ou est-ce qu'ils sont tous là?
Mais ils sont partout. J'ai presque plus de place.
Le Book Club.
Il y a eu des travaux, des ravements de façade. Est-ce que j'ai dû rentrer mes plantes? Sauf qu'il y a eu des décès depuis.
Des décès de plantes?
Ouais. Et du coup, là, c'est genre une sorte de champ. Mon bureau est en fait un champ et maintenant, je travaille sur le
dans la bibliothèque de Mélissa Lavaux.
Il y a plein de livres ici.
Bah ouais.
Il y en a encore dans le couloir, il y en a dans ma chambre.
Marie Richeux.
Mélissa Lavaux est une autrice, compositrice, interprète dont les projets de disques sont toujours tissés d'une narration profonde. On l'a entendu plusieurs fois sur notre chaîne et ailleurs dire son amour pour de nombreuses autrices et auteurs. En voyant arriver son dernier disque, où elle explore en musique les différents rendez-vous qu'elle a eus depuis la plus tendre enfance avec le péril, qu'il soit physique ou psychique, il nous est apparu évident qu'il fallait lui demander de déballer sa bibliothèque. Une évidence confirmée en poussant doucement la porte de son appartement, décrit par elle comme une grotte végétalisée. L'appartement grotte était effectivement rempli de livres. Très attachée à ce que son travail épouse des dynamiques mémorielles ou militantes, l'histoire haïtienne, les histoires queer, les histoires de communautés liées à la maladie se rencontrent dans ses chansons comme dans les rayonnages de sa bibliothèque. At my softest, I am most dangerous, c'est le titre de ce nouvel album dont on écoutera des extraits dans l'épisode du jour. Douceur et fréquentation du danger étant aussi au rendez-vous dans les textes choisis par Mélissa Lavaux pour vous aujourd'hui. Tout se recoupe, place à sa bibliothèque.
Merci beaucoup Mélissa Lavaux de nous accueillir chez vous. Comment on peut décrire cet endroit dans lequel on arrive? Où on se sent vraiment immédiatement... Comment dire? Très bien quoi.
Oh merci. J'ai dit que toujours c'est une tanière de sorcière ou de grand-mère.
Ouais, ça fait un peu ça, mais c'est vrai.
Parce que j'ai beaucoup trop de... En anglais, on dit tchatchkis.
Et c'est quoi?
Et c'est juste genre, j'ai plein de petits objets, de souvenirs. Et j'adore prendre des photos absolument ridicules. Du coup, il y a une photo de moi avec mon meilleur ami, qui est aussi de temps en temps mon bassiste, Sébastien Richelieu, quand on était au Brésil et on a été au pain de sucre et j'insistais à prendre une photo absolument ridicule de touriste.
Vraiment, un vrai touriste, ouais.
Et puis j'ai gardé mes souvenirs de Beyoncé, de Cowboy Carter. Y a plein de fleurs séchées, de plantes.
Il y a des plantes vivantes, non séchées, telles ce ficus à ma gauche.
Ouais, ce ficus, en fait, c'est la première plante que j'ai eue quand je suis arrivée sur Paris. Et que j'ai ramené en métro avec des amis que je me suis fabriqué avec une appli.
Quoi?
Parce qu'en fait, quand on arrive sur Paris, quand on arrivait à l'époque sur Paris, il y avait plein d'applis, genre rencontrer des gens et tout. Et puis j'en rencontrais plein de gens. Parce que j'avais...
Mais quelle époque?
2008. En 2008.
Vu que quelle appli en 2008 pour faire des amis?
Il y avait différentes applis où genre rencontrer des Parisiens ou de rencontrer des Américains.
Okay.
Et ça, j'allais à tous les trucs parce que, en fait, j'avais pas encore de concert pendant un an. Donc, j'ai donné des cours de chant, j'ai donné des cours d'anglais, j'ai donné des cours de plein de trucs. Et j'allais récupérer des trucs sur Freecycle parce que j'avais pas de sous. J'avais à peine des sous pour m'acheter des meubles ou quoi
que
ce soit.
Économie circulaire, quoi.
Économie circulaire, absolument. Maintenant, je suis devenue complètement différente parce que je suis comme... Ouais, mais... Alors, j'ai risqué d'avoir des puces de lit et tout. Et j'ai jamais rien eu, mais quand même...
Donc, ce ficus, il vient de cette époque-là.
Ce ficus vient de Freecycle.
Bah, il a bien tenu quand même, hein.
Il a super bien tenu. Et puis, je pense qu'il est encore plus heureux dans cet appartement dans lequel il est depuis 16 ans.
Donc, beaucoup de plantes, quelques plantes séchées, quelques plantes vivantes, beaucoup de livres, beaucoup de photos. Est-ce que vous voulez dire les gens qu'on voit en photo?
Alors,
qui ne sont pas vous sur des photos de touristes?
Ils ne sont pas moi. Il y a juste une photo de moi, c'est vrai.
Ouais.
Il y a Maya Angelou à son époque où elle était chanteuse et danseuse de Calypso. Après ça, il y a une ferraille. C'est un genre artistique qui existe seulement en Haïti. Et qui est de la ferronnerie un peu. Et c'est une sirène, c'est un seahorse sirène. Et à côté, il y a James Baldwin en train d'écouter du jazz. Et il y a Laurie Anderson. Il y a un festival, j'avais une impression d'un festival de jazz des années 70 de Bath, où la programmation, elle avait l'air complètement ouf. Du coup, j'ai récupéré ça. J'ai une sorte de document religieux, de genre tablette religieuse éthiopienne.
Ouais.
Qui m'a coûté que dalle, mais du coup j'ai dépensé genre 100 euros sur des livres pour décrypter ce que vous voulez dire.
Ok.
Et c'est juste des anges, ce sont des prières.
C'est beau.
Pour faire venir. Elle est magnifique.
Ouais, c'est très beau. Et il y a un gros. Ce serait quoi, une sorte de xylophone?
C'est un balafon qu'on m'a. On a accepté de me vendre quand j'étais au Ghana. Et en fait, c'est un faux balafon parce qu'il manque deux touches. Et il disait, ouais, mais t'es une fille, tu sais pas jouer, donc on va t'offrir autre fourgue, celui-là. Et du coup, des fois, quand je manque d'idées, je tape dessus, même s'il est complètement faux.
Et ça marche?
Ça marche, grave.
Et donc, au milieu de tout ça, il y a en effet beaucoup de livres, à l'entrée de la pièce, dans toutes sortes de d'étagères.
Et j'ai pas organisé par thème vraiment, comme il y a vraiment une section cuisine qui est sous la stéréo, mais après ça...
Ah oui, là, en effet, ouais.
Et après ça, ça part dans l'herboristerie, des romans, des livres d'art, des expos que j'ai adorés.
Beaucoup de livres en anglais.
Beaucoup de livres en anglais.
Ouais.
On va en reparler, absolument.
Ouais. Parce que vous lisez majoritairement encore en anglais?
Oui, en fait, c'est juste qu'il y a des auteurs, il y a des auteurs autoristes que je préfère lire en anglais, juste parce que la langue de base de cet auteur est en anglais.
Mm-hmm.
Donc là, je suis en train de lire God of Small Things de Arundhati Roy, mm-hmm. et j'allais pas le lire en français. Et j'ai eu une peur par rapport à ça, parce que je sais, quand je suis arrivée en France, j'avais vu une pièce de Tennessee Williams, et c'était traduit très très mal en français soutenu.
Mm.
Et Tennessee Williams, c'est vraiment de l'anglais du sud des États-Unis, c'est basse classe et tout. Et du coup, ça faisait aucun sens. La pièce était détruite. Oh ouais, j'ai détesté.
Et du coup, depuis ce jour-là...
Depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne vais plus jamais lire en France. J'avais aussi lu une traduction du... Parce que un de mes favoris, c'est L'œil le plus bleu de Toni Morrison. J'avais lu très jeune et je pense que je l'avais vu dans une librairie ici. Et je suis comme, oh, je vais la racheter. Et après ça, je l'ai conseillé de lire et c'était hyper mal traduit. Et
c'est marrant que vous disiez ça parce que je me suis complètement cassé les dents, moi, sur ce livre-là. Donc peut-être qu'il faudrait que je le trouve dans une meilleure traduction, s'il existe.
Je pense qu'il a été retraduit. Okay. Ou trouver des traductions canadiennes.
Vous avez appris à lire en anglais?
Non, j'ai appris à lire en français. Moi, j'ai appris l'anglais plus tard. En fait, je me suis apprise à lire toute seule parce que je m'ennuyais. Mes parents sont francophones.
Ouais.
Moi, j'étais à l'école, j'étais scolarisée en français. Je n'ai pas été scolarisée en anglais avant l'université. Et j'ai appris l'anglais en regardant la télévision, notamment en une série qui s'appelle Reading Rainbow.
C'est quoi?
Reading Rainbow, c'était une des meilleures séries. C'est avec LeVar Burton, qui jouait Geordi dans Star Trek Next Generation, l'ingénieur aveugle. Qui a un super serre-tête sur les yeux. Et LeVar Burton, il voulait vraiment que les enfants ils lisent. Et PBS, à l'époque, la télé publique nationale des États-Unis, avait une super programmation. Donc, c'est Sesame Street et Reading Rainbow m'ont appris à lire. Parce que je voyais des gens assisés à l'écran, des gens assisés, et du coup, ils lisaient des livres, et moi, je les trouvais à la bibliothèque. Et c'est comme ça que ma sœur a découvert que je lisais à la sortie des livres à la bibliothèque.
Mais parce que vous avez appris à lire, donc, pour vous désennuyer, toute seule,
ouais,
à la télé, avant que l'école apprenne à lire.
Mais il y avait des livres à la maison, et mes parents sont tous les deux profs, ils sont enseignants de lycée. Et du coup, j'avais plein de livres à la maison, et je m'ennuyais parce que... Je pense qu'il n'y a aucune partie de mon enfance qui était enfance, où genre j'ai pas eu beaucoup de jouets d'enfant, j'ai hérité de certains jouets de ma grande sœur, mais en fait il n'y avait pas vraiment de jouets, parce que mes parents étaient comme, bon, ben, elle arrivait comme surprise, par surprise, 7 ans plus tard, on sait pas quoi faire. Et du coup, tout le monde s'est remarqué que je commençais à parler assez vite, que je parlais à tout le monde, tout le monde oubliait que j'étais genre beaucoup plus jeune que le reste de la famille. Et je me suis dit, il y a plein de livres partout, moi je peux apprendre à lire. Et du coup, j'ai appris à écrire parce que j'aimais beaucoup la manière dont les lettres ressemblaient et j'aimais bien les dessiner. Et après ça, j'ai commencé à comprendre comment les... En, regardant la télévision, comment les faire sonner. Et puis voilà.
C'est une belle aventure quand même avec la lecture. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se noue entre vous et la lecture de manière très forte, très tôt.
Oui, moi ouais, je dirais oui. Mmh. Oh, ouais, c'est sûr. Mais j'ai pas lu en anglais avant, je sais pas, 7 ans.
Et vous avez lu avec goût en français ?
Avec goût en français, ouais, ça c'est sûr. Après ça, c'était hyper facile de lire. Je me réveillais à 2h du matin juste pour lire, pour rendormir à 4h, et puis on se réveillait à 6h30 pour aller à l'école. C'était mon kiff.
Parce que grande passion, quoi.
C'était une grande passion, mais aussi j'avais trop d'attention. Du coup, c'était difficile de trouver un moment où tout était silencieux pour vraiment lire. Et encore aujourd'hui, je lis majoritairement des livres en audio, parce que je trouve ça plus facile de faire quelque chose en même temps et d'écouter. Donc là, je suis en train de ranger.
Ça, c'est rapport à l'attention, que c'est plus simple de faire un autre truc en même temps.
C'est plus simple d'avoir soit le silence ou se canaliser sur quelque chose de physique.
Ok.
Pour se concentrer sur les livres. Les amis trouvent ça très bizarre.
Non, ok, c'est intéressant.
Et je trouve qu'à 2h du matin, c'est tellement plus facile de lire parce que vraiment le monde est silencieux.
Ouais.
J'entends pas, je focalise pas sur mes voisins, je check pas mon téléphone, personne m'écrit à 2h du matin. Avant, j'avais des amis au Canada. Mais y a personne qui m'écrit à 2h du matin et c'est vraiment genre le moment où je suis bien.
Et encore aujourd'hui, dans votre vie quotidienne à Paris, vous continuez à lire la nuit ?
Oui. Ah oui, surtout la nuit. Ou des fois, quand j'ai le temps, j'ai un canapé très moelleux. Donc, je fonds dans mon canapé et je lis des livres. Et parfois, il y a des livres, je pense que je ne les ai même pas ouverts. Il y a encore le plastique dessus. Mm. Quand c'est des anthologies et trucs comme ça. Par exemple, il y a une anthologie de comment écrire une bonne chanson. Ou bien une anthologie de June Jordan, dans toute sa poésie, dans son intégralité. Elle est là. J'essaye de mettre les livres de mes amis en haut. Comme ça, quand je rentre.
Ouais. Comme ça, vous les saluez ?
Non, mais comme ça, je finis le livre. Parce que sinon, je ne vais jamais le lire. Donc, je sais qu'il y a le dernier livre de Kiemis. Il y a les livres de... J'ai entendu mes saisons.
Je peux dire, moi, Jennifer Padjemi, Rebecca Chaillon, Laurent Safou, Mariam Kaba, Marie Dauché.
Marie Scondé. Et Jean-Frédéric Connet et sa série de BD iconique sur la communauté gay à San Francisco, qui est assez cool.
Ça, Santa Francis.
Ouais. Il y a plein de livres.
Juste à côté, il y a l'édition originale de Bell Hooks, All About Love.
Oui, parce que je trouve que c'est indispensable d'y retourner régulièrement. Après ça, les personnes les plus toxiques le lisent et me disent...
De fou Je suis d'accord, il faut le dire.
Les personnes les plus...
Je suis tellement d'accord. C'est tellement... Ça me fait plaisir que vous le disiez enfin. Tous ces mecs qui disent avoir lu Bell Hooks, ou ces meufs d'ailleurs, et qui sont les pires.
Et c'est les pires personnes. Mais vraiment, dans les dernières semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je me suis pris Bell Hooks, All About Love, and I was like, this is bad song. »
Est-ce que ça va devenir un red flag ? Non, quand même pas.
Non, ce commence à devenir un red flag, ouais. Pour moi, ouais.
Enfin, c'est dommage. Je suis très contente qu'on puisse enfin placer ça dans une bibliothèque, Mélissa Lavo. Mais lisez Bell Hooks quand même. Mais bon, voilà. Nous ne sommes pas dupes.
Je trouve que c'est hyper important de lire Bell Hooks, et notamment cet ouvrage-là. Mais je trouve qu'aussi, c'est genre un manuel de comment...
Pécho. Disant qu'on est déconstruit.
Ben justement, mon psy, quand je lui ai dit, ah, mon crush, elle a dit qu'elle était en train de le lire, il a dit, ah, sympa, elle pourrait le lire dans le métro. Comme ça, on fait du virtue signaling. Quand on montre à tout le monde, moi, je suis vertueuse, je lis la course dans le métro, etc. Alors que c'est, genre, je lis à l'envers et je regarde pas. Bref, il y a plein de BD et tout. Il y a Myrion Mal. J'ai pas la dernière.
Myrion Mal. Ah oui, ok, ouais.
C'est pas la
dernière. Clémence en colère.
Mais elle est très bonne, celle-là.
Vous lisez beaucoup de romans graphiques, BD, etc.
Ouais. Et on m'en offre aussi. J'étais dans la communauté parce que je sortais avec quelqu'un dans la communauté. Quelqu'un qui était graphiste, okay. Ouais. Et là, je suis en train de faire des shout-outs aux amis. Il y a Larata qui a sa BD sur les femmes dans la musique qui ont chanté sur le sexe. Et je trouve que cette BD, elle est géniale. Et c'est devenu un petit cabaret.
Peut-être on peut dire un mot de...
Mais mille cannes.
De cette canne oiseau.
C'est une canne phénix que j'ai achetée d'un ébéniste ukrainien. Et j'adore le fait que... J'ai envie que ce soit ma canne de scène. pour la prochaine tournée. Sauf que elle est trop grosse et je n'arrive pas à mettre des embouts. Embouts sont un peu importants pour
la stabilité. Garder
la stabilité.
Ouais.
Du coup, une amie ébéniste à Paris, elle est là pour modifier toutes mes cannes que j'achète. Je n'arrête pas d'acheter des cannes. Genre, celle-là est aussi très jolie. Mais l'embout, il part trop vite et elle est trop haute. Donc, elle va venir et elle va juste ajuster toutes mes cannes. Comme ça, elles sont utilisables.
Parfait, je la re-range. On salue la pièce non utilisable qui contient d'autres livres.
Non, c'est celle-là.
C'est celle-là.
Okay. Ça, c'est juste le couloir.
Ça, c'est le couloir. Ok. Mais peut-être on passe au deuxième moment et on lit... Enfin, vous lisez pour nous les textes que vous avez choisis.
Ok.
Procéder pour choisir ces 5 textes, Mélissa Lavou.
Alors, j'ai choisi des textes parce que j'ai gardé la note. No. J'ai choisi les textes par rapport à l'album parce que vu que je suis ici aussi pour parler de mon album.
Absolument.
Qui va sortir bientôt. Et ah, sélection. Et j'ai mis Marie. Donc, j'ai choisi Assotossin parce que c'était un poète, artiste. Performeur gay, séropositif dans les années 80-90 à New York, à Brooklyn, haïtien américain. Et du coup, quand j'étais diagnostiquée avec une sclérose, j'ai eu une énorme faiblesse pour les récits de personnes sidatiques dans les années 90. Peut-être que ça sera un autre projet dans plusieurs années.
Donc c'est un texte de 1986.
Yes.
Qui s'appelle The Impossible Black Homosexual.
Oui, et je tiens à relever qu'en 85, moi je suis née en 85, c'est l'année où le sida a fait genre sa grande entrée comme une crise et tout, comme une pandémie. Et en fait, il disait toujours qu'il y avait les 3 H, les personnes qui étaient susceptibles d'avoir le sida, c'était les 3 H, les homosexuels, les hémophiles et les haïtiens. Et du coup, les haïtiens, ils ont fait une énorme marche à New York 1985 en soutien de toutes les personnes qui avaient été citées comme porteuses de sida, en disant on n'est pas une maladie en fait. Et du coup, c'était quand même assez fort, comme c'était quand même une politique, il y avait des affiches et tout. Du coup, ça c'est un autre truc qui m'a aussi tenue, et c'est là où c'est ce que ma sœur, quand moi je suis née, elle a dit que j'étais un bébé trisomique sidatique parce que ma mère m'avait eu assez tard pour l'époque. Et c'était sa blague pour jusqu'à ses 13 ans. Bref.
Ok, sœur, avec qui vous avez travaillé pour ce dernier disque donc?
Ok, alors pour le dernier disque, j'ai demandé à ma sœur de faire des audios pour expliquer les différentes instances où j'étais en péril. Et elle s'est donné le trouble d'en faire 4, mais ça parle de plusieurs choses différentes. Donc ça tombe bien, on a inséré sa voix à travers l'album. Mm-hmm. Et ça sert à quelque chose, parce que maintenant, je l'ai un peu narguée pour qu'elle vienne à Paris et monter sur scène avec nous.
Est-ce que vous nous lisez l'extrait de ce texte?
Oui. Alors... The impossible black homosexual or 50 ways to become one. L'impossible homosexuel noir ou 50 façons de le devenir. The impossible black homosexual, the one whose father's feelings are chiseled in steel, the one whose mother should have considered an abortion a serious option, the one who is a case of BPNC, bad prenatal care, the one who runs his life on CPT, colored people time, the one who falsified his birth date but couldn't change his fate, the one who changed his name, still has no fame, the one who was born in the boondocks of Haiti but often pretends to be French-Canadian on the party phone sex lines, the one who calls at all hours... Celui doté d'un père avec les sentiments creusés dans l'acier, celui doté d'une mère qui aurait dû songer à l'avortement, une option sérieuse... Celui qui résulte de MSPN, mauvais soins prénataux. Celui qui mène sa vie au rythme de l'HGC, l'horloge des gens de couleur. Celui qui a falsifié sa date de naissance sans avoir pu changer son sort. Celui qui a changé son nom mais qui n'a toujours pas de renommée. Celui né dans les bidonvilles d'Haïti mais souvent prétend être franco-canadien sur les lignes du téléphone rose. Celui qui appelle à toute heure quand il a besoin de toi. Celui qui appelle rarement mais toujours pensait justement à toi à chaque fois que tu l'appelles. Celui que tu nommes Miss Tinguette, celui qui se nomme Madame Tinguette, celui qui peut être douceur, celui qui souvent ne s'arrêtera à rien, celui qui est plus illusionniste que Pan le magicien si tu n'es pas son genre, celui qui petit déjeune régulièrement sur du Baldwin, de la porno à des bananes avec granola, celui qui mange de la merde tous les jours de 9 à 5, celui qui te traite comme de la merde tous les vendredis soirs jusqu'à la dernière commande pour de la bite, celui qui a déjà reçu des morpions à Noël et pas ceux qu'on retrouve sur la tête, celui qui a surnommé ton trio de godes Salas, Pétasse et BBC, et celui rembourré de 19 cm sur la pub, celui dont le plus grand fantasme d'enfant vu se s'habiller comme une femme, celui dont la réalité en tant qu'adulte est souvent de s'habiller comme une femme, celui qui, quand il avait 14 ans, a baisé une fille puis vécu à Brooklyn, celui qui, quand il avait 15 ans, baisa des vieux dans les cinémas puis vécu à Queens. Celui qui, quand il avait 16 ans, a baisé un chauffeur à l'arrière du bus, puis vécu à Queens. Celui qui, quand il avait 17 ans, a baisé un policier en civil dans un spot à passe, puis vécu à Queens. Celui, depuis qu'il a 18 ans, a baisé dans le nord, sud, est et ouest de New York. Celui dont les esprits le rendent de temps en temps un peu trop hardi à travers le monde.
Est-ce qu'il est comme ça tout le temps, ce texte?
Oui, il est comme ça tout le temps. Il est incantatoire. À ce moment, il parle de ses papiers et de ce qu'il fait le jour où il reçoit sa nationalité américaine. Et c'est...
Parce qu'il est présenté comme un texte performatif.
C'est performatif.
Parce que c'était vraiment fait pour être joué et dit sur scène.
C'est fait pour... Oui, oui, oui. Il y a des vidéos, il y a quelques vidéos de lui sur YouTube qui sont assez cool.
À Sautoussin.
Ouais.
Quand vous dites que c'est comme une sorte de recherche que vous avez fait ou de frénésie de lecture que vous avez fait autour de ces textes autobiographiques de témoignages de malades du sida, au moment où vous-même vous apprenez votre diagnostic de sclérose, c'est quelque chose qui était comme une recherche de miroir? Ou comment vous analysez le fait qu'à ce moment-là, c'était des lectures importantes pour vous?
Moi, je dirais que c'est plus avoir quelqu'un qui vit le truc d'avoir une maladie auto-immune et le concept d'une maladie auto-immune, genre ton propre corps est en train de te tuer. Et je me suis dit, ah, j'ai tellement voulu mourir tellement de fois que mon corps a dit, ok, t'inquiète, on va s'en occuper. Et en même temps, je trouve que on ne parlera jamais assez de l'époque du sida, en fait. Je pense que c'est hyper difficile d'avoir des hommages permanents au sein d'une ville. En général, c'est des hommages qui sont éphémères. Mm-hmm. Il y a des films, je trouve que de manière institutionnelle, on ne rend pas assez hommage aux victimes du sida et au fait que les gouvernements internationaux, ils ont un peu lâché une grande partie de la population tout seul, même la population qui n'était pas homosexuelle ou queer ou trans. Et bien sûr, parce que moi je trouve que c'est une partie de mon histoire personnelle en tant que personne issue de la communauté queer, parce que c'était surtout les lesbiennes qui sont occupées des mecs gays qui se retrouvaient, ou du volet sidatique des hôpitaux en fait, parce que personne ne voulait rentrer dans ces volets, personne ne voulait attraper le sida, et c'était majoritairement des soignantes lesbiennes qui s'en occupaient.
Vous avez toujours été, parce que la question des archives autour de cette maladie-là, elle croise aussi la question de toutes les archives queer, et donc vous venez de parler aussi de toutes les archives lesbiennes. Est-ce que vous avez toujours été très attentive à cette question mémorielle-là, Mélissa Lavaux ?
Oui, je trouve que une de mes missions artistiques, c'est de faire travailler la mémoire des gens. C'est un pouvoir, en fait, la mémoire. Et le contrôle de la mémoire collective est quelque chose de puissant aussi. C'est quelque chose auquel c'est pas tout le monde qui a accès, souvent les gouvernements ont accès, souvent les gens qui publient les livres d'histoire y ont accès. On dit toujours l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et je trouve que je suis une des personnes qui insiste à écrire l'histoire du point de vue des marginaux.
Le deuxième choix que vous avez fait pour nous, c'est un texte de Franck Etienne, qui est paru en 1979. Ça vous va que ce soit le deuxième ?
Oui, il n'y a pas de souci. Je suis allée chercher. Et j'avais choisi... En fait, j'avais vraiment des chansons. Une chanson par texte.
Et donc, alors, ce premier, ça faisait écho à quelle chanson ?
C'était soit « Do As I Say », qui est une chanson par rapport à mon coming out, à mon père, ou bien « Damien », qui est sur mon baptême. Parce que, en fait, quand j'étais baptisée, c'était un peu un hasard. Et en fait, on pensait que j'étais possédée par le diable. Du coup, on m'a baptisée dessus.
Peut-être on peut juste dire un tout petit mot autour du projet de cet album, qui est vraiment narratif, quoi, de manière encore plus explicite que d'habitude, je trouve.
C'est un album autobiographique, mais je fais mon autobiographie à travers chaque fois, toutes les instances où j'ai failli mourir, où j'ai rencontré un esprit, où j'ai eu quelque chose de vraiment... un moment excessivement fort. Et du coup, je trouvais que à Sautocène, ça marchait bien avec cette chanson à mes parents. Et après ça, parce qu'il dit justement dans les premières lignes de ce poème d'Assaut-aux-Saintes, il parle de ses parents qui auraient dû...
Les sentiments d'acide du père et l'avortement manqué de la mère, quoi.
Exact.
Votre deuxième choix, c'est porté sur Franck Etienne. Donc, c'est un auteur qui est né en 1936 en Haïti. Un grand écrivain, un grand poète. Et c'est un livre qui s'appelle « Les affres d'un défi ».
Alors, « Les affres d'un défi », c'est un livre sur... la métaphore de la zombification. Et ce que je trouve qui est hyper drôle, c'est que dans la dernière année, on m'a demandé de composer une chanson, une musique de fin pour un générique sur un film sur les zombies. Et la cinéaste, elle n'avait pas lu Franck Etienne. Et je me dis, mais t'as pas lu Les affres d'un défi. Et elle connaissait pas, donc elle s'est empressée de le trouver. Et c'est un livre qui est écrit en créole et en français. J'ai les deux versions. En créole, c'est des affiches. Mais c'est... En fait, quand les Américains sont arrivés en Haïti en 1915, ils avaient peur parce qu'ils savaient que les Haïtiens, ils avaient fait une cérémonie au Bois-Caïman et du coup, ils avaient fait un pacte avec le diable. Et c'est pour ça qu'ils avaient gagné contre Napoléon. Parce que comment est-ce qu'une poignée d'esclaves puisse gagner contre l'Empire français ? Et du coup, ils ont dit, bon, ben, vous n'avez pas le droit de pratiquer le vaudou parce qu'on sait que vous faites des zombies et tout. Et j'aime beaucoup cet ouvrage-là parce que Franck Etienne, il parle vraiment d'une époque juste après l'indépendance où il y avait quand même une guerre entre le nord et le sud d'Haïti où les gens du sud, ils voulaient continuer l'esclavage parce qu'ils disaient, c'est comme ça fait des sous. Et les gens du nord, ils sont comme, non, avec le roi Christophe, on n'a pas envie de faire l'esclavage. Et en fait, la seule manière que les gens ils ont pu comprendre de faire une sorte de mythologie par rapport à l'esclavage ou l'esclavisation, comment est-ce que les gens ils auraient pu continuer à travailler, continuer à touiller la terre alors qu'ils étaient complètement déshumanisés, c'est la déshumanisation. Et du coup, c'est genre
un récit qui est genre, j'adore ces magical realism, mm-hmm. et je trouve qu'il est très, le réalisme magique, il est présent dans toute la littérature latino-américaine. Sachez que Haïti est le premier pays latino-américain et qu'il a libéré 5 pays après. Même si on n'est pas hispanophone, si quand même un petit peu. Et du coup, ce livre-là, moi, je trouve très, très beau parce que je trouve qu'il parle hyper bien de cette métaphore de la déshumanisation des personnes qui sont esclavisées. Et c'est pour ça que je voulais lire un extrait. Enchevêtrement de branches d'arbres au fond d'une vieille cour fréquentée rarement par des êtres humains. Une poignée de sel commence à se dissoudre dans un chaudron d'eau bouillante, un chaudron abîmé, complètement bosselé, noirci de couches de fumée. Au milieu d'un feu de bois, d'innombrables grains de sel crépitent, incessant combat entre la vie et la mort. Dormir avec l'espoir que la lumière drainera nos angoisses nocturnes. Se réveiller loin des songes désentravés, le corps enlépré de solitude. Regarder l'immensité des déserts inarpentés, errer à travers la meublerie des désirs, remuer le ciel et la terre jusqu'au saignement des étoiles et des pierres, s'empiffrer de nourriture, lécher d'appétit, palper avec prudence, souffler sur les morceaux brûlants, choir, déchoir, fuir à toutes jambes, crever de faim des jours entiers, parler sans cesse, déraisonner, avoir la langue engourdie ou cisaillée en mille morceaux, avoir des tripes encordées devant la douleur, éprouver d'une soif d'enfer, se parer comme un paon, se coucher de mauvaise humeur, se lever en pleine euphorie, rire à pleines dents, marcher tout nu et recouvert de haillons, se fourvoyer dans de folles amours, s'enliser dans la mort. Mais qui parmi nous vit réellement? Vraiment qui? Une infinité de gens, les plus divers, sombres en pleine conscience dans un rêve hallucinant, étrange, interminable cauchemar peuplé de bêtes nuisibles, de personnages carnavalesques. Des agamants, des serpents, des mabouyas, des scorpions, des araignées venimeuses, des mille-pattes, des fraisais, des malfinis, l'énigmatique Lazigoave, l'étonnante Madame Bruno, le terrible Charles Oscar, et des spécialistes de boîtes à surprises avec leurs curieuses marottes. Égarés à l'entrecroisement des chemins, nous peinons à la recherche de notre route. Comble de malchance, la nuit nous engaine dans une opacité goudronneuse et nous nous fourvoyons dangereusement sur des pistes enténébrées de mal diocre. Parfois, nous tournons en rond sur nous-mêmes. Nous allons éparpillés à reculons dans des directions opposées. Où allons-nous? Quel est le but de notre voyage? Nous ressassons de vains reproches sans rien tenter contre les semeurs de deuil. Souvent, nous parlons à nous-mêmes et nos paroles perdent leur sens dans un temps innommable. Qui nous écoute? Qui cherche à nous comprendre? Plutôt que de nous entendre, ils nous traitent de fous. Puis, ils s'empressent de nous museler. Carrousel des jours et des nuits, marionnettes et girouettes au cirque des saisons. Nous demeurons hébétés dans un rêve empoisonné par des créatures maléfiques. Un rêve entrecoupé de cauchemars, sifflements de vent, couteaux des éclairs. Théâtre de l'orage. Nous nous remuons un peu, à demi réveillés. Nous ouvrons un œil dans l'instabilité du souvenir et de l'oubli. Nous nous souvenons quelque peu, mais nous avons oublié les séquences essentielles du rêve. Je trouve que c'est une belle manière de décrire genre la totale déshumanisation de quelqu'un. C'est la seule manière que quelqu'un peut continuer, en fait.
Mmh. Quand est-ce que vous découvrez ce texte-là? Quand est-ce que vous le lisez?
Oh, je pense en 2020. On en avait parlé avant, et Franck-Étienne, qui est décédé l'année dernière, avait sorti un documentaire, avec un cinéaste français d'ailleurs, sur la grande cathédrale Rose-Bonbon au centre de Port-au-Prince, qui a été détruite dans le tremblement de terre en 2010. Et je me suis dit, oh, je ne connaissais pas cet auteur du tout, ce poète du tout. Et j'ai commencé à lire un peu de ses poèmes, mais je n'avais jamais lu de roman de lui. Mmh. Et en 2020, on n'avait rien à faire. Moi, j'étais censée écrire un album et je me faisais engueuler tous les jours. Mais pendant, genre, j'ai pris un an à commencer à écrire et j'ai juste lu. Et ça, c'est un des livres que j'ai lus. Et il est génial.
En vous écoutant lire comme ça, cette prose qui tourne sur elle-même, qui est hyper entremêlée, qui invente aussi des... des images très fortes, semeur de deuil, qui fait avec des adjectifs, des verbes, etc. Parfois, il y a des choses qui pénètrent directement l'écriture de vos chansons.
Moi,
vous voyez comment ça voyage ou...
Moi, je dirais oui, parce que... Mais après ça, moi, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais... à la fac et j'étais en biologie au début et du coup j'aimais beaucoup beaucoup la physiologie, donc j'avais des textes qui étaient très très physiques, des images assez visuelles, un peu cauchemardesques. Après ça j'écris beaucoup sur mes cauchemars, mes cauchemars sont très très visuels, très très graphiques, et je ne sais pas, peut-être que c'est un héritage littéraire haïtien, parce que c'est vrai que si on pense à des auteurs haïtiens, si on pense à Edwige Dantica, qu'on va lire bientôt, et James Noël, par exemple, qui est aussi un poète haïtien vivant en France, de renom, c'est... j'ai envie de dire, c'est de la poésie charismatique et viscérale.
Ouais, mais d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez proche entre ce que vous venez de lire de Franck Etienne et ce qu'on connaît de James Noël, en effet. Bah, peut-être on peut aller vers Edwige Dantica, ouais.
Et là, l'extrait... Ben, du coup, je vais prendre l'extrait...
Que j'ai ici ?
Ouais, parce que moi, je l'ai en anglais.
Alors, donc c'est Nos Solitudes.
Oui, et en anglais, ça s'appelle We're Alone. Et je pense que c'est justement... je trouvais que c'était intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit... Tout le monde pensait qu'ils étaient en train d'écrire un livre pendant le confinement. Et elle a vraiment écrit un livre sur le désastre et être faire face à la mort. Et je trouve
pendant
ça...
Pendant cette période-là.
Pendant cette période-là, ouais. Mais pas que, parce qu'elle parle de, tremblement de terre en Haïti, elle parle de différentes catastrophes. Et je trouve ça intéressant parce qu'une de mes croyances, c'est qu'à chaque fois que les gens ils disent « Mais c'est la fin du monde !» Et je suis genre « Pour qui ?» Parce qu'il y a plein d'entre nous qui ont connu des fins du monde diverses, c'est juste une autre fin du monde et il y a d'autres mondes qui vont s'éveiller après. Mais ouais, et je trouve que ce livre, il est magnifique. Il m'a été conseillé par Mélodie Thomas, d'ailleurs. Et je l'ai englouti parce que c'est rempli de références à des poètes haïtiens aussi, à René de Pestre et tout.
Alors,
je vais commencer avec la partie qui parle justement de Zora Neale Hurston, parce que justement je travaille sur elle.
Poétesse qui avait fait un petit ouvrage sur Bartleby, non ? C'est Café Cambi, pas du tout ?
Ah, je sais pas.
Ok.
Elle a écrit un ouvrage qui est en fait un testament d'une des dernières personnes esclavisées aux États-Unis.
En fiction ?
Non, en vrai. C'est vraiment genre. C'est,
un entretien. Comme un entretien.
Ouais, c'est un entretien en fait. Ça c'est passionnant.
Et c'est traduit en français ?
C'est traduit en français. Je sais pas par qui, mais ça a été traduit en français il y a quelques années.
Trop bien.
Et l'autre que je recommande, sur lequel j'avais un peu démarré Radio Sewell, c'était Tell My Horse, où elle parle de ses voyages. Parce que les gens ne connaissent pas très bien, mais Zora Neale Hurston était non seulement une autrice, mais elle était aussi une folkloriste et une archiviste. Donc elle a voyagé à travers les Antilles. Elle a voyagé en Haïti à l'époque de l'occupation militaire américaine parce que c'était financé par la FBI. Et c'était une très proche de Alan Lomax, qui était d'une famille riche. Sauf que tout le monde connaît Alan Lomax comme grand anthropologue, mais pas elle.
Ouais.
Et je trouve ça chiant. Donc je vais faire un autre projet, on en parlera plus tard. On se reverra dans 2 ans.
Et là, vous lisez donc un extrait.
Je vais lire différents passages.
Ok.
Dans « Des pas dans la poussière »,« Dust tracks on the road », l'écrivaine et anthropologue Zora Neale Hurston écrit qu'au lendemain de la mort de sa mère, Lucy, et après avoir quitté la maison pour voyager vers des lieux jusque-là inconnus d'elle, elle s'est retrouvée plongée dans le matin du jour des commencements et que cette géographie était en moi. Il ne lui fallait que du temps pour se révéler. J'aime tellement cette dernière phrase que parfois je la cite de mémoire ou la paraphrase ainsi. Toute la géographie est en moi. Il ne lui reste qu'à se révéler. Et du coup, je continue. Selon le folklore haïtien, manger le sel peut libérer les zombies de leurs conditions de mort-vivant. Donc on revient aux zombies et on revient au fait qu'on parlait de sel dans le texte Roquetienne. Il arrive que les personnages qui apprennent soudain une terrible nouvelle se voient également offrir du sel, parfois dans leur café, pour les aider à surmonter le saisissement, le choc, les aider à se relever et à continuer d'avancer.
J'ai dit aux aspirants écrivains que je suis écrivaine parce qu'on m'a en quelque sorte donné du sel. Pour certains d'entre nous, ce sel, ce sont les histoires et les mots. Pour d'autres, ce sont la musique, le mouvement et la danse. Pour d'autres encore, ce sont les images, les formes, la sculpture. À mon arrivée aux États-Unis, je me souviens avoir été choquée de constater que le sel était blanc. Dans les marchés haïtiens, nous achetions souvent du gros sel marin qui ressemblait à des petits cristaux ou à des petits cailloux, inégaux, avec des veines sombres en surface ou à l'intérieur. Il fallait toujours laver ces cailloux de sel avant de les utiliser pour la cuisine. Et même après les avoir lavés, ils restaient plus gris que blancs. La mer est faite de sel, écrivait Zora Neale Hurston. Zora, ok. Mais du coup, je trouve que la phrase, je sais pas si elle est bien traduite, parce que c'est la mer est du sel. En anglais, c'est the sea is salt. C'est pas la mer est faite de sel, c'est the sea is salt. La mer est sel. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort de dire la mer est sel, mais bon, la traduction est la traduction. La mer, c'est l'histoire, écrivait le poète Saint-Lucien, Derek Walcott. Et moi, je trouve que ces deux phrases sont hyper fortes.
La mer, c'est le sel. La mer, c'est l'histoire.
La mer est le sel. Et la mer est l'histoire. Mmh. C'est tellement fort parce que je trouve que j'écris énormément sur la mer, j'écris énormément sur l'eau. Mmh. Et je pensais que j'étais la seule à avoir une obsession avec la mer. Et voilà. En fait, je viens d'une longue lignée d'artistes entiers qui ont un énorme respect pour la mer et qui y voit énormément d'importance. Genre, si on retourne sur l'histoire de la zombification et là où elle parle de... En fait, je me suis réveillée, je me suis ressaisie avec du sel.
Qui, par exemple, justement, quand on entend ça, ce qui est hyper beau, elle dit, je dis souvent aux jeunes gens que je suis écrivaine parce qu'on m'a donné du sel, quelle qu'en soit la forme. Est-ce que vous savez quel sel vous avez reçu?
Je sais pas. Le wokisme. je sais pas. Je trouve que j'ai été éveillée tôt. Genre, je pense que mon père... C'est marrant parce que quand je parle toujours de Radio Sewell, je dis toujours... Moi, je pensais que c'était des berceuses. Et quand j'ai creusé un peu...
Radio Sewell, pour dire, c'est un projet précédent et qui est notamment un projet de récolte. Enfin, à partir de récolte que vous avez fait de chansons.
De chansons haïtiennes qui datent de l'époque de l'occupation militaire américaine, qui ont été chantées pendant cette époque-là, mais qui sont encore plus anciennes. Et que je pensais être des berceuses, mais qui étaient en fait des chansons militantes et contestatrices pour la plupart. Et je trouve ça hyper beau que mes parents ils m'aient doté de ce cadeau en me disant non, tu vas pas être musicienne, c'est juste normal, c'est naturel, c'est absolument normal d'être quelqu'un de militant, c'est absolument normal d'être offusqué par le monde. Donc je pense que la famille dans laquelle j'ai, autant que mes parents étaient immigrants au Canada, et ils sont on fait pas de bruit, on fait pas de vagues, on a envie de s'intégrer, mais en même temps. Genre, comment oscille? Je mes parents, ils m'ont toujours donné ça. Et puis, le dernier extrait de ce livre-là, c'est en fait, c'est un poème de René Despestre que j'adore, qui s'appelle La rivière. Voilà, c'est fait, je suis devenue une rivière. Ce sera une grande aventure jusqu'à la mer. Quel nom me donnera-t-on sur les cartes? D'où vient ce cours d'eau inconnu? Quel ciel reflète-t-il dans ses flots? Quelle paix, quelle faim, quelle douleur. Il est juste parfait, comme c'est un des meilleurs poètes.
Il faut qu'on avance. Oulala, il faut qu'on avance. Quatrième choix.
Terminons avec Alexis Pauline Gums et passons à l'Odyssée de la Vénus noire qui se trouve aussi ici. Et je remercie énormément Margot des éditions Gallimard. Elle savait pas que j'étais grande fan de Robin Cost-Lewis depuis hyper longtemps et que j'avais l'original en anglais. Donc c'est un peu, je sais pas si on arrive à parler de Robin Cost-Lewis comme une poétesse américaine et
universitaire.
Et aussi quelqu'un qui a aussi une maladie chronique et dégénérative. Et du coup, j'aime beaucoup quand je découvre que des artistes que j'aime beaucoup ont aussi des maladies chroniques. Genre, ah, je ne savais pas que telle personne écrivait sous ce spectre-là, en fait. Sous le spectre de la maladie. Et sans que ce soit présent, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je me dis, ah, je suis attirée par ce texte. Et je suis comme, ah, ben voilà, voilà. Genre, ça fait du sens pourquoi je suis attirée par ce texte, ça me parle. Alors,
Peut-être, est-ce que vous voulez dire un tout petit mot du projet poétique? On a reçu Robin Cost-Lewis dans le book club, donc on renvoie nos auditeurs à l'écoute de cet entretien où elle parle de ce livre-là. Mais est-ce que vous voulez dire la structure du texte qui est un peu particulière?
La structure du texte est un peu particulière parce que ça ressemble à des descriptions, des plaquettes dans les musées.
C'en est.
C'est récupéré de différentes plaquettes de musées et j'aime beaucoup parce que, comme par hasard, mon amie Alice Diop, elle a fait ce court-métrage qui démarre au Louvre. Oui, voilà. Fragments of Venus, qui démarre justement au Louvre. Et du coup, je trouve ça hyper... encore viscéral, si on peut dire ça. Parce que c'est cru, en fait. C'est cru, mais c'est important. Bref, ce qui est dit, on dit beaucoup.
Juste préciser que dans ce projet-là, Robin Cost-Lewis, elle ponctionne des cartels où elle est comme à la recherche dans l'histoire du regard et de l'art, quoi, des corps de femmes noires.
Oui. Et ça, c'est quelque chose qui... Et aussi un sujet, c'est pour ça que j'ai adoré tout l'ouvrage, c'est parce que il y a une manière très intéressante de regarder le corps des femmes noires à travers l'art. Et je parle toujours du fait qu'il y a des, même si c'est un corps qui est désiré, ce n'est pas un corps désirable et ce n'est pas un corps qui est priorisé. Et du coup, la manière dont on en parle toujours comme une marchandise, même aujourd'hui. Pour moi, c'est important d'avoir des ouvrages comme ça qui en témoignent. Alors, jeune fille à la peau foncée après le bain, école d'esthétique, éminence. Rébellion de Négroville, broche donnant, donnant. Couper, battre, brûler, balancer, consumer. Cette belle motte bien riche qu'on a là, le désossage du membre touffe. Je ne sais pas où elle est allée fourrer sa bouche. Femme de la mûre, assise, femme en robe bleue et noire. Étoile et feu d'artifice, femme nourrissant femme oiseau, se brossant les cheveux. Bête sabée à la fontaine, Vénus devant un miroir. Trois bréchets dans une boîte en bois. Hip, 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 hourra! Détournez le regard, détournez le regard, détournez le regard. Z'ont été des gentils blancs, tant qu'ils ont duré. Dit une nana à une autre. Des mains dans l'eau, pomo, afro, homo, pan de la mer, l'esprit des morts regarde le message. Paris brûle les blancs pour être en colère, anonyme. Ton Kunst est ton Waffen, anonyme. Langue déliée, sans titre, gothique américain, sans titre, yeux marginaux, toujours là, à la recherche. De Langston, les merles sur un bateau à vapeur, gardien du désir, la tête chantante. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Blues. Jeune fille noire dans une rivière, la jeune fille saluant, vue depuis, les anatomies de la fuite, à la maison avant la nuit, sur elle le cake, walk, amour économique, contrôle, la chatte, tous les soirs, les zoulous, astronomes. Mais bon sang, qu'est-ce que tu as fait à ce café fleur noire? Pour vous, madame, passo doble, comme je suis, le contre-coup, lèche-vitrine de sous-vêtements, dimanche, matin, luciole sur l'eau, ombre bleue. Silence, calme, prière.
Et on termine donc
avec Non noyé de Alexis Hollingham, qui est un ouvrage sur les leçons afroféministes que l'on peut tirer des mammifères marins. J'ai rencontré la traductrice allemande de ce livre, c'était très rigolo, à un festival de poésie à Cologne le mois dernier.
C'est vrai? Oui. Là, il y a trois traductrices, je crois, ou traducteurs, Mabeke Oberti,
oui.
Myriam Rabakonate et Rose B. Et donc, le titre initial, c'est Undrowned.
Mm-hmm.
Pourquoi Undrowned?
Undrowned. Undrowned, c'est parce que on pense à la traversée transatlantique et toutes les personnes qui ont choisi de se noyer ou qui ont été lancées à bâbord pendant la traversée. Je pense que c'est des millions, en fait. Il y a des millions de personnes. Donc, il y a des millions de traversées, mais il y a des millions de personnes qui ont soit refusé, ont choisi de se suicider, soit en s'étouffant avec la langue, s'étouffant sur ses chaînes. Et il y a...
C'est à ça que renvoie ce mot undrowned.
Ouais. Et en fait, il y a cette mythologie sur le peuple des personnes qui ont échappé à l'esclavage pendant la traversée par le suicide et qui s'appelle les Draxians. Et il y a un groupe de punk de Détroit qui s'appelle les Draxians à cause de ça, des années 90. Du coup, il y a plusieurs mythologies autour des personnes qui ont... les vraies sirènes qui ont survécu à la traversée transatlantique en se suicidant.
C'est un texte assez récent, de 2020.
Je pense qu'un peu avant. Non, peut-être que c'est de 2020.
Moi, je vois 2020, mais peut-être que...
Mais, l'original, ouais, l'anglais.
L'original, voilà.
Parce que
elle est née en 1982, aux États-Unis, donc c'est vraiment votre génération. Et ça semble être sorti en 2020, ouais.
Ouais. Et
traduit en français en 2024.
Exactement. Et c'est sorti sur les éditions de... Adrienne Murray, oh, en France, oui. Mais je vous parlais de Adrienne.
Ah, pardon.
Oh, originellement, Adrienne Murray Brown, qui est une poétesse américaine militante et qui a un super podcast sur comment survivre la fin du monde, que je trouve qui est trop bien, qui est basé sur les livres de Octavia Butler.
Et la vous, vous êtes Summer. Très attentive à toute l'actualité éditoriale aux États-Unis.
Oui, après ça, je pense que je suis particulièrement sensible parce que Alexis Pauline Gumbs, c'est une spécialiste d'Audre Lorde. Et moi, je suis très fan d'Audre Lorde. Je conseille à tout le monde de lire la biographie qu'elle vient d'écrire sur Audre Lorde, qui n'est pas encore traduite, mais je sais que c'est en cours. Je sais qu'il y a, c'est en cours en France. Elle a écrit une biographie incroyable à travers ses poèmes, qui est absolument sublime. Donc, une poétesse qui écrit une biographie sur une autre poétesse qui est... C'est genre juste...
Poétesse au carré.
Poétesse au carré.
Ok.
Et puis, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas d'Audre Lorde. Genre, je ne savais pas qu'elle avait enseigné la littérature aux flics. Il y a des trucs comme ça, on ne sait pas d'Audre Lorde. Bref,
je conseille... Donc là, on revient à non-noyer.
On revient à non-noyer, qui sont des leçons afroféministes qu'on arrive à tirer des mammifères marins.
Je vous laisse nous lire un extrait des non-noyés.
Alors, et je vais prendre l'extrait qui a été envoyé, parce que moi, je l'ai en anglais.
Oui.
Louange à la planète ménopausée qui se connaît si bien elle-même qu'elle sait voir au travers des histoires que tu te racontes. Louange à elle qui a connu les âges de glace et les astéroïdes. Elle sera toujours plus maligne que toi, alors autant la voir de ton côté. La dauphine rayée pourrait nous apprendre quelque chose à ce propos. Acrobatique et agile, elle sait écouter les respirations de Big Mama, les mouvements de sa sueur, sa danse quotidienne, ronde et gracieuse. Dans les eaux profondes, les dauphins rayés et leurs cousines suivent ses mouvements. Comme le Gulf Stream, cette longue et massive coulée d'eau tiède, 150 fois la quantité d'eau contenue par le fleuve Amazon, qui remonte des Caraïbes et qui permet aux palmiers de pousser sur les côtes de Caroline du Sud et de l'Irlande. Ou comme le courant du Kuroshio dans le Pacifique, ou comme le courant des aiguilles près de la côte africaine australe. Une étude menée par des scientifiques de l'Université de Washington qui ont employé l'action combinée de capteurs au fond des océans et des satellites dans le ciel dit que les courants chauds sont en train de ralentir en raison de la manière dont nous avons changé l'atmosphère. Personne ne t'a dit de ne pas venir déranger les ombres de la dame, ni même son thermostat, l'espace ou le temps dont elle a besoin pour respirer. Oh maman, j'aimerais tellement que nous puissions ressembler davantage aux dauphins rayés, connaître les motifs qui marbrent nos corps et les lire comme des cartes pour habiter en toi. Non pas pour éviter tes mouvements, mais pour nous abandonner à toi et nous écouler avec toi. J'aimerais accorder mes mouvements à ta chaleur, mais au lieu de cela, je lutte, je parcours les eaux en suivant des chemins que mon esprit s'est inventé en s'appuyant sur les informations erronées. Et si j'avais eu confiance en toi, j'aurais sans doute appris à me faire confiance à moi-même.
Et si je t'avais regardé, j'aurais pu véritablement me voir. Et je me demande s'il n'est pas trop tard pour descendre de ce bateau de croisière blanc et toxique et lâcher ce contrôle, comme Ave dans Pray Song for the Widow de Paul Marshall. J'aime bien cette idée de le texte de Surrender, et j'aime bien le côté ben les mammifères marins sont des matriarcats, et en fait dans les sociétés européennes eurocentriques, en tout cas, il n'y a pas de matriarcat. Le matriarcat n'existe pas dans les communautés européennes. On pense à presque partout dans le monde, il y a eu des matriarcats, sauf en Europe. Je pense qu'il y en a eu dans les communautés autochtones, dans le Grand Nord. Mais est-ce vraiment l'Europe? Parce que ce n'est pas des communautés qui vraiment aiment dire qu'elles sont européennes, vu que comment on vole leurs enfants et tout. Bref, et du coup, j'aimais bien cette idée de prendre des leçons. Mmh. Et aussi l'idée de la ménopause comme une nouvelle phase de vie, comme un nouveau pouvoir et de connaissance. Et apparemment, il y a des chercheurs qui ont dit que les prédateurs apex... Les prédateurs apex sont les humains, les éléphants, les baleines, les orcas en tout cas, les baleines et les grands singes sont les seuls à avoir des ménopauses parmi les mammifères apparemment. Et c'est parce que donner naissance est tellement dangereux qu'on risque de perdre une personne à ressources et une personne qui peut transmettre ses ressources. Mmh. Et du coup, il y a eu une sorte d'évolution de la ménopause pour mettre fin à le processus de naissance. Comme ça, ça donne une seconde vie où on est juste mentor. Et je trouve ça trop cool.
C'est clair, ça nous ouvre pas mal d'horizons.
C'est genre, ah ben en fait, pourquoi pas est-ce que la présidente, première ministre est une femme ménopausée ? Ou une personne ménopausée, tout simplement.
Que les esprits électoraux vous écoutent et vous entendent.
J'espère.
Merci beaucoup d'avoir déballé votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci.
Et d'avoir partagé toutes ces lectures. Merci infiniment.
Merci.
Chez vous, Mélissa Laveau, à la prise de son, c'était Laurent César. À la réalisation, c'était Louise André. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Noé Margas. Pour retrouver les textes choisis par Mélissa Laveau, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr où vous pourrez aussi accéder à tous nos autres portraits de bibliothèque.